premier point qui a été abordé par les négociateurs donc, concerne le soutien à une réforme agraire. Donc il faut revenir à 1964-1965, la première conférence des FARC, mouvement marxiste qui est né dans les campagnes pour une réforme agraire à une époque où la Colombie était un pays essentiellement d'économie agricole. Les FARC sont un mouvement de guérilla qui n'a jamais réussi à s'implanter de façon durable dans les villes. Et donc ce point-là a été le premier évoqué. Mais enfin, il y en a d'autres. La reconversion de tout ce qui concerne l'économie des stupéfiants dans une économie légale, la justice, ceux qui ont commis des crimes seront justiciables. Il y a également la transformation des FARC en parti politique avec un certain nombre de garanties sur deux législatures d'une représentation minimale qui est assurée par l'État. Le dernier point, la vérification de l'application des accords de paix.
Cet accord fait encore aujourd'hui l'objet de réticences, d'oppositions. Sur quoi porte-t-elle principalement ?
Il y a des réticences, en particulier de deux anciens présidents colombiens, Alvaro Uribe, qui a toujours considéré que les FARC étaient une organisation criminelle et que la seule façon de résoudre le problème était la voie des armes, et le président Andrés Pastrana, qui curieusement est contre, et qui pourtant en 1998 avait lancé un processus de négociation qui avait été jugé assez laxiste, puisque les FARC pendant 4 ans avaient obtenu la gestion d'un territoire aussi grand que la Suisse. Ces deux présidents bénéficient d'un certain nombre de soutiens, en particulier dans l'intérieur de la Colombie, dans les régions rurales qui ont été affectées, non pas par les phénomènes de la lutte des stupéfiants, mais par celui des enlèvements.
Un référendum se tiendra le 2 octobre prochain. Quels sont les enjeux, l'importance de ce référendum pour la mise en place de cet accord ?
Le gouvernement et les FARC ont souhaité qu'il y ait un référendum afin que la population colombienne puisse donner son avis et finalement apporter un soutien et une légitimation à ces accords. Si le non l'emporte, la Colombie continue à vivre avec un conflit intérieur. Les sondages laissent espérer une assez large victoire du oui, mais l'enjeu ne sera pas finalement la victoire du oui, celui de savoir si les Colombiens se sentent concernés ou non concernés par ces accords, dans la mesure où les populations des villes ont toujours été assez éloignées du cœur de ce conflit qui concernait les zones périphériques et rurales du pays.
Si l'accord de paix est finalement mis en place à l'issue du référendum, quelles sont actuellement les principales craintes quant à la mise en application de ce dernier ?
L'application de l'accord ne pourra s'appliquer que s'il bénéficie du soutien majoritaire du peuple colombien. La garantie de sa réussite sera le fait que les anciens guerriers des FARC puissent se réinsérer dans la société. Et deux, est-ce que l'État sera en mesure de garantir la sécurité des anciens guerriers lorsqu'ils deviendront monsieur ou madame tout le monde ou des élus ?
Quels avantages représente cet accord de paix pour le président Santos ?
Le président colombien considère que la signature de cet accord de paix ouvre la voie à des investissements qui ne seront pas des investissements consacrés à un effort de défense ou un effort de police qui pourraient permettre de gagner 1 à 2 points de croissance pour la Colombie. Il y a un effet immédiat pour le président Santos. Cette existence des FARC en tant que parti politique va quelque part diviser la représentation de la gauche et donc va lui assurer une meilleure gouvernabilité.